요리는 마음을 비치는 거울이야.
RPH déroule le tapis rouge à la 61e rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Je me trouve maintenant aux côtés de Élie Garcia. Élie Garcia est un jeune cinéaste pisanois qui figure sur la liste des invités de la 61e rencontre cinématographique de Pézenas parce que en amont du film qui sera présenté à 17h30 le jeudi 22, son court-métrage sera proposé au public de cinéma de Pézenas. Élie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays des Roues et RPH Sud. Pour faire plus ample connaissance avec toi, la rencontre avec le cinéma.
On a commencé à faire des petits courts-métrages entre copains. On avait notre petite caméra, donc à l'époque on avait des mini-DV, c'était des petites cassettes. Et c'était la première expérience qu'on a eue. On a filmé, donc avant ça on avait écrit notre petit scénario, on a filmé, j'ai fait le montage derrière, donc tout en autodidacte, des tutos sur internet, etc. Et ensuite, l'expérience m'a personnellement beaucoup plu, j'ai voulu recommencer encore et encore. Et donc, je parle de ça, on avait 13-14 ans. Et donc YouTube et tout n'était pas encore très démocratisé. Hein, c'était...
Oui, parce que j'allais poser la question de savoir comment vous aviez éventuellement fait connaître ce travail à d'autres, mais c'était peut-être tôt par rapport au réseau.
Je crois que quand on a tourné les premiers films, les premiers courts-métrages, on était à la première année de YouTube. C'est-à-dire qu'à l'époque, Dailymotion se défendait encore, on était encore... YouTube n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, ce n'était pas une plateforme qui a absolument... toute la domination du répertoire vidéo, et on avait beaucoup moins de moyens de diffuser, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, ou du moins n'étaient pas encore démocratisés, et l'audience était beaucoup moindre.
Alors, l'écriture d'un scénario, il y avait eu la phase d'écriture d'un scénario, où on était d'abord parti faire des images, qu'on a ensuite monté...
Il y a eu, c'était très empirique. Hein. On a fait un petit scénario qui a changé au cours du tournage parce que, on était absolument pas structuré et un film qui s'est encore transformé lors du montage parce que c'était les premières expériences. On a été confronté à certaines réalités où on se rend compte que certaines choses qu'on envisageait ne marchent absolument pas lors du montage. Donc il fallait bricoler autre chose, mais ça c'est la vie classique d'un film. On dit qu'un film se fait trois fois, il se fait une première fois à l'écriture, une deuxième fois au tournage et une troisième fois au montage.
Et là il y avait quand même déjà des outils performants du type logiciel et tout ça qui permettaient de travailler les images réalisées.
Oui.
Donc, on n'était pas encore au balbutiement comme c'était le cas de YouTube pour la distribution. Les premiers oui. Films, il y avait quand même des outils de montage.
Les outils de montage et tous, eux, étaient déjà implantés, existaient, mais c'était à l'époque, Internet était encore, c'était encore le Far West.
Les leçons tirées de cette première expérience ont débouché sur quoi ?
Et donc ça a débouché sur une volonté de s'orienter davantage dans ce secteur audiovisuel. Donc, suite à ça, j'ai commencé une option cinéma audiovisuel au lycée. Donc, j'étais encore au collège, je suis rentré au lycée à Jean Moulin Pézenas avec l'option cinéma audiovisuel. Suite à ça, après le bac, j'ai continué là-dedans, j'ai fait un BTS audiovisuel à Cannes. Ensuite, j'ai continué mon cursus en faisant une licence puis un master 1 à Paris. C'était Paris, hein, je crois. Panthéon-Sorbonne, je crois que c'était celle-là. Et en même temps, je commençais à travailler sur Paris, en faisant des premiers films institutionnels. Donc je me suis développé dans les films institutionnels sur Paris, et j'ai fait ça pendant quelques années. Et maintenant, j'ai déménagé sur Montpellier, donc je reste pisanois de cœur, mais je suis
Hérolté.
Hérolté, mais avant tout Hérolté. On reste Hérolté. Et donc maintenant, je suis sur Montpellier. Je continue à faire de l'institutionnel. Je fais de plus en plus de réalisations de fiction aussi, dont Poudre Mouillée qui sera projeté. J'imagine qu'on va en reparler.
Oui.
Et maintenant, j'essaie de plus en plus de tourner en région, de faire des fictions dans la région et de développer un peu l'activité en Occitanie et en Hérault.
Donc, un parcours de formation qui a complété les outils et qui ont permis aux envies initiales de déboucher sur un travail plus professionnel.
Absolument. C'était, au début, ça commençait par du pur autodidacte. Ça se dit.
On peut oser.
Donc, ça a été de plus en plus professionnalisé au cours du temps avec différentes interventions, différents professeurs qui m'ont permis de me développer là-dedans. J'ai fait beaucoup. Mon parcours a été orienté sur l'image quand j'étais au BTS à Cannes, c'est-à-dire que j'ai eu une formation bien plus spécialisé dans tout ce qui est caméra, lumière.
Tout ce qui est la prise de vue.
Exactement, tout ce qui concerne la prise de vue et la direction de photographie. Et ensuite, lors de mes années de fac, je me suis un peu plus orienté sur l'écriture, qui était quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur.
C'est par là qu'on raconte les histoires, quand même.
Absolument.
C'est le début.
C'est le début. Ça, parce que tout à l'heure à la table ronde, on disait que sans bon scénario, il n'y a pas de bon film. Et donc effectivement,
il y a une autre condition, on dit aussi, pour que le film soit réussi, c'est qu'il faut qu'il y ait de bons acteurs.
Absolument. Il faut de bons acteurs. Les acteurs doivent jouer de bons personnages. Et donc ça, c'est très important aussi dans l'écriture. Il faut avoir des personnages attachants, forts, auxquels on croit. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme exercice.
Bon, on a vu, si tu veux, que tu avais maintenant des outils en matière de réalisation, en particulier au niveau de l'image. On a vu que tu avais des outils en particulier aussi au niveau de l'écriture. La direction d'acteur.
Alors la direction d'acteur, c'est encore quelque chose pour lequel j'ai encore du mal, puisque je viens d'une formation du côté technique. Et j'apprends. À chaque nouveau tournage, à chaque nouveau film, j'apprends. Je suis confronté à des nouvelles problématiques avec ce métier de direction d'acteur que j'apprends sur le terrain. Et puis je suis accompagné en général de gens qui ont aussi un bagage côté jeu, qui me donnent des conseils. Et puis on fait un bilan après à chaque fin de tournage où on voit bon. Tu lui as dit les choses comme ça, tu aurais peut-être dû lui dire comme ça pour qu'il comprenne mieux, etc. Parce que ce qui est compliqué avec la direction d'acteur, c'est que chaque acteur a sa propre sensibilité, et c'est un vrai jeu diplomatique, et donc chaque acteur n'a pas non plus les mêmes références. Donc pour faire comprendre la même chose entre deux acteurs, il peut y avoir deux façons de l'exprimer.
Je pense que ça nécessite aussi ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est une rigueur dans l'écriture.
Oui.
Il faut quand même que le réalisateur sache très très exactement ce qu'il attend.
C'est ça, il faut une rigueur dans l'écriture et dans l'intention, il faut... Donc ça, c'est sur le tournage, c'est pas interdit, mais il faut éviter à tout prix d'avoir le moindre doute. Parce que dès qu'on a un doute, c'est toute la machine qui se met en pause en attendant que la solution soit trouvée. Et donc, normalement, si on a bien bossé, je trouve, en tant que réalisateur... Si on a bien... donc ça, c'est ce que j'ai pu expérimenter avec Poudre Mouillée. J'ai fait beaucoup, beaucoup de réunions avec différents chefs de département, que ce soit au maquillage, dans les costumes, à la lumière, au son, à l'image. Et si on a bien fait les bonnes réunions et que tout le monde sait ce qu'il a à faire, le jour J, on a juste à savoir ce qu'on veut. Tout le monde sait... toute la machine s'opère et on répond à toutes les questions, toutes les dernières petites questions. Est-ce que les bottes rouges ouvertes, est-ce que tourner à droite ou à gauche, enfin, tout le genre de petites choses.
Tout en restant très attentif à ce petit plus qui peut apparaître au moment où on filme.
Absolument. Mais...
Et qui n'avait pas été envisagé précédemment. Mais ça,
c'est la
subtilité du.
Mais ça, c'est la magie. Oui, c'est la subtilité. Et elle vient peut-être pas forcément du réalisateur. Parfois, elle vient d'un comédien qui improvise quelque chose et qu'on va finalement garder parce que ça colle bien et parfois ça peut être même parfois ça peut être une erreur au cadre ou un petit tremblement qui fait mais qui a un timing parfait qui fait que ça exprime enfin ça va dans l'intention et que ça exprime quelque chose de supplémentaire qu'on va vouloir garder au montage et donc il faut être attentif à ça, il faut avoir une bonne ligne directrice ouais, dans l'écriture ouais. pour que sur le jour J sur le tournage tout file droit et qu'on ait un cap, mais je pense que c'est important de s'autoriser quand même cette marge d'improvisation et de liberté de proposition aussi des membres de l'équipe, parce que nous on est dans notre projet depuis des semaines, des mois, et on est dans un tunnel où avec des œillères. Et cette équipe qui vient d'arriver sur le projet a un regard neuf et a des propositions très souvent intéressantes à nous suggérer.
Trop de rigueur pourrait déboucher sur de la froideur.
Trop de rigueur pourrait déboucher sur la froideur et ça retire tout l'aspect magique. Et si on ne s'amuse pas, enfin si c'est trop rigoureux et qu'on ne s'amuse pas assez sur le tournage, ça se ressent à l'image aussi. Je trouve que quand un tournage qui s'est bien passé, sur lequel on a pris beaucoup de plaisir, ça, c'est inexplicable, mais ça se ressent et ça apporte quelque chose au rendu final.
Venons-en, si tu veux bien, à Poudre mouillée.
C'est un court-métrage de 10 minutes qui a été tourné à Pézenas et au lac du Salagou. Donc, un tournage 100% héroleté, avec un casting 100% héroleté. Tous les acteurs viennent d'ici. C'est un film qui est compliqué, je trouve, à pitcher, parce que c'est un film sur un débat. C'est un film où différentes personnes vont parler. Je viens de résumer l'histoire de tous les films, des personnages vont parler. C'est un duel de nobles, un duel de pistolets entre deux nobles qui se déroule au XVIIIe siècle. Et il y a un groupe de personnes qui font partie de la populace, qui vont observer ce duel et qui vont commencer à débattre sur qui ils préfèrent voir gagner. Et ce débat va se transformer petit à petit en parodie de débats politiques qu'on peut entendre de nos jours, mais retransposé avec des enjeux du XVIIIe siècle.
Et la suite au prochain numéro.
La suite au prochain numéro. Non, après, c'est une parodie de débat politique, mais je ne voulais pas faire un film militant. C'était là toute la difficulté de l'écriture, c'était de réussir à équilibrer différents points de vue sans dire forcément quelle était la bonne réponse, et plus mettre en avant le fait que personne ne s'écoute, personne n'arrive à se comprendre et ne veut se comprendre, et que la remise en question est très très difficile, surtout quand... Face à toi, tu as quelqu'un qui ne veut même pas comprendre pourquoi tu penses ainsi et qui veut juste lui-même appuyer sa façon de penser.
Enfin, l'histoire du film se situe dans une période historique bien précise, comme tu viens de le dire, le XVIIIe siècle. Mais quand même, à travers ce que tu dis, on y retrouve les difficultés, les problèmes d'aujourd'hui, contemporains.
Oui, mais je pense que c'est des problèmes qui ont été, enfin, qui sont intemporels. Je pense que de tout temps, les gens n'ont pas réussi à s'entendre correctement et à se comprendre. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 2000 ans, plus de 2000 ans d'expérience démocratique, si on commence à Athènes, eh bien, on n'a toujours pas la formule parfaite de démocratie et que c'est toujours en train d'évoluer parce qu'on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas comment faire de façon parfaite.
Et le ton du film?
Le ton du film est plutôt léger, parce que oui. Là je commence à parler de tout ça, mais donc on est plutôt sur quelque chose, sur un registre comique, un peu fantaisiste, un peu. Je suis très inspiré de tout ce qui est Monty Python, de tout cet univers qui joue entre un peu l'absurde, un peu la désacralisation. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes projets, c'est de désacraliser des choses, des espèces de totems. Et le fait de désacraliser, ça les rend accessibles, et au final, on peut en discuter comme n'importe quoi et en rire tous ensemble.
Malgré le sérieux du fond.
Malgré le sérieux du fond et la gravité de la situation, tout à fait. parce que je parle de tout ça, de débat, etc., juste peut-être pour resituer un peu le pourquoi du comment. J'ai commencé à l'écrire en 2017 suite aux élections présidentielles. Les élections présidentielles de 2017. Je m'étais déjà un peu nourri de tout ce qu'on a pu entendre à la télé, dans des débats, même au bistrot, des élections américaines en 2016 quand Trump a été élu. Et je me suis encore plus nourri de tout ça avec tout ce qu'on a entendu en 2017. Et j'ai pris un peu tout ce qu'on pouvait entendre. Au repas de famille, avec discussion avec les copains, ou même ce qu'on peut entendre à BFM, CNews et
Et
tout
ouais.
ça. Et j'ai tout mélangé, j'ai tout retransposé au 18e siècle, parce que j'aime beaucoup Barry Lyndon, je voulais absolument faire un film de duel de pistolets d'époque, et je voulais faire ça au Salagou. Donc j'ai combiné toutes mes envies, j'ai fait tout ça. En réalisant Poudre Mouillée et 18e siècle, mais quand même pour donner justement cet aspect intemporel que ça touche notre époque, ça touchait déjà avant et peut-être encore même encore avant,
Et peut-être après.
et peut-être même après, c'est que c'est un 18e siècle, mais que j'ai volontairement rendu difficile à cibler, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réel repère à part les costumes, aucun repère spatio-temporel. Je ne dis jamais que ça se passe en France, je ne dis jamais que ça se passe à une date précise, et j'ai justement un peu mélangé différents faits historiques pour un peu brouiller. Il y en a qui ont commencé à essayer de chercher, ils disaient, mais attends, si tu évoques les empereurs, machin, ça veut dire qu'on est après la Révolution, est-ce qu'on est après, avant, après Napoléon et tout? J'ai dit, non, mais ça se passe même pas en France, en fait. Je donne juste suffisamment de références pour que tu essaies de te rattacher à quelque chose que tu connais, mais. Après, on est dans un espèce d'univers parallèle.
Sur un film comme celui-là, là, faire le choix d'un court-métrage en costume, ça n'a pas été une difficulté, ça?
Absolument, et je referai pas de sitôt.
C'est pas la solution la plus
Non,
simple, quand même.
mais j'aime beaucoup les films d'époque, j'aime beaucoup les films en costume. D'ailleurs, les tout premiers films qu'on faisait avec les copains, c'était des péplums, on était avec nos draps en train de faire des toges. Donc j'ai toujours aimé costumer. Parce que, enfin, je sais pas, je trouve que quand je vois un film, j'aime bien voyager à la fois dans l'espace et aussi dans le temps. Et je trouve que enfin, c'est une solution un peu facile de prime abord dans l'intention de voyager dans le temps en changeant d'époque. Mais par contre, quand on fait un court-métrage et qu'on débute avec les moyens du bord, c'est très compliqué. Là, on a eu beaucoup de chance. On a eu à la fois la ville de Pézenas qui nous ont fourni des costumes parce qu'ils ont un stock, et l'illustre théâtre qui nous ont aussi prêté leur stock de costumes. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser ce film. Sinon, ça aurait été très très compliqué.
Tu évoquais tout à l'heure Barry Lyndon,
Oui.
c'est quand même un grand film en costume, mais avec une bande de son et une bande musicale extraordinaire.
Absolument.
Comment tu t'en es sorti pour la bande de son de ce film?
Je suis une bille en musique, et donc c'est pour ça que je me suis absolument reposé sur Jérôme Dru, qui a composé la bande originale de ce film. Et je lui ai dit, voilà, j'ai deux orientations. Je veux du classique, non, enfin, ouais, plutôt du classique baroque, du Handel comme dans Barry Lyndon. Et en même temps, c'est un duel de pistolets qui va se passer au Salagou. Je veux quelque chose.
Du Morricone?
Ouais, exactement. Ouais. Je veux m'inspirer des westerns de Sergio Leone, et donc je veux que tu mixes du Ennio Morricone avec du baroque d'Handel. Voilà, débrouille-toi avec ça.
Ça a dû le surprendre,
Oui, mais bon, c'est un challenge, je pense
non? Oui, tout à fait.
qu'il a pris plaisir à faire, j'espère pour lui en tout cas. Et non, bah, il s'en est pas trop mal sorti, j'étais très très content du résultat.
C'est essentiel. Des projets.
Des
Parce que là,
projets.
je disais tout à l'heure, bon, ben ça y est, poudre
Poudre
mouillée,
mouillée, poudre
ça c'est
mouillée,
réglé.
c'est réglé. Là, il est encore en train de faire son petit circuit en
Oui.
festival. Donc, jeudi 22, il sera aux rencontres cinématographiques de Pézenas. Le 23 mars, il sera au Croisic, à côté de Saint-Nazaire. Il sera projeté là-bas lors du festival, la première édition des festivals de Petit Beurre. Et il sera le 24 mars, le lendemain, à Aulx-lès-sous-Bois, dans les Yvelines, pour un autre festival. Donc ça, c'est les prochaines dates. Donc c'est bien, il voyage, hein. Il voyage, il voyage. Il a déjà été diffusé à Athènes, il a été diffusé en Inde, il a été diffusé à Pékin aussi. Donc bah, écoute, ça commence à voyager. Donc voilà, ça, c'est une histoire pas tout à fait bouclée, parce qu'on est encore en train d'assurer sa diffusion, mais effectivement, on prépare les prochains. Donc on a un autre court-métrage qui est déjà écrit, et actuellement, bah, je cherche à le faire produire. Donc je suis en recherche et en démarche de producteur pour pouvoir m'accompagner sur la prochaine aventure.
Là, c'est le film Poudre Mouillée, c'est vous qui le distribuez.
Voilà.
Il n'y a pas encore une structure de distribution
Non, on n'a pas de distributeur.
qui se soit engagée pour la distribution
Voilà,
des
bah, là
produits.
je m'en occupe avec la production actuelle, mais on fait ça de façon très artisanale. Et ouais, voilà, j'ai pas de distributeur attitré. Et donc je m'occupe beaucoup de la distribution et des candidatures en festival.
Et le fait comme ça de présenter son travail dans des festivals, ça ouvre des portes, ça crée des opportunités.
Eh ben déjà, oui, j'imagine, enfin je pense, oui. Ça, je pense que c'est important de faire tout ce processus, parce que ça permet déjà de rendre visible le film, de le montrer à des publics qui n'auraient jamais vu auparavant. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que YouTube et toutes les plateformes de streaming n'étaient pas développées au temps des premiers cours, mais aujourd'hui elles le sont tellement qu'il y a trop de monde, et on est noyé dans un flot de vidéos, et donc on fait pas beaucoup plus de vues aujourd'hui. Et c'est très très rare de réussir sur ces plateformes. C'est de l'ordre de 0,001% les gens qui atteignent les millions de vues et qui arrivent à vivre de ça. Et donc ces circuits sont importants pour le montrer et pour rencontrer des gens du métier, pour déboucher sur de nouveaux projets.
Oui, parce que quand même, je suppose que ce sont des instances, ce sont des moments de rencontres, d'échanges qui permettent de constituer, comment dire, de constituer un réseau. Parce que c'est quand même une activité qui repose en grande partie.
Voilà, absolument. Bah, tu as très bien reformulé ce que j'ai essayé de dire juste avant, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est des rencontres avec des gens du milieu. Donc c'est l'occasion d'agrandir son réseau. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à déboucher sur de nouveaux projets.
Tu disais tout à l'heure, casting 100% éreolté.
Oui.
Les éreoltés sont des gens faciles à driver.
Franchement, oui.
Oui.
Franchement, bah, j'ai jamais eu d'expérience d'acteur qui jouait leur diva, etc. Mais là, en tout cas, très très flexible, très très à l'écoute et à disposition parce que bon, en fait, tout le monde est au courant que sur ce genre de projet, il faut un peu donner du sien, parce que
Ouais.
on n'est pas sur de la grosse production. Et voilà, si un jour il faut tarder un peu plus, rester 2 heures de plus parce que sinon le film n'existe pas, bon, tout le monde met la main à la pâte. S'il faut faire une répétition de plus en amont pour le faire, bon.
Il y a une part de l'investissement qui repose sur le militantisme un peu.
Oui, bah, enfin, là, on a réussi à rémunérer les personnes sur ce projet. Donc, c'est mon premier film où l'équipe n'est pas bénévole, ou du moins en très très grande partie. Mais bon, pas bénévole, mais qui reste quand même très flexible. Quand on est sur des courts-métrages, on n'est jamais sur les mêmes budgets, les mêmes grilles tarifaires que sur des longs métrages qui sont produits, enfin qui ont une grosse production derrière. Et donc forcément, ce ne sont pas les mêmes salaires, ce ne sont pas les mêmes. Quand on loue du matériel, par exemple, les loueurs de matériel font aussi des efforts, parce que on n'est pas sur les mêmes enjeux, on n'est pas sur les mêmes retours sur investissement. Et pareil, surtout, ben, je parlais de la ville de Pézenas qui nous a prêté les costumes. Ils nous ont aussi prêté les lieux, ainsi que le département pour le Salagou, parce que tout ça, normalement, c'est des choses qui se payent. On privatise des endroits.
Oui.
Et donc, ce genre de film, c'est ce genre de films qui sont quand même nécessaires parce qu'on ne peut pas, on va pas m'attribuer, on va pas me donner 6 millions demain pour réaliser un film alors que je n'ai rien à montrer. Donc on est obligé de passer par ces étapes. Mais pour que ça se fasse, il faut que tout le monde, à chaque niveau, donne un peu du sien.
C'est ce que j'appelais du
Du militantisme,
militantisme,
oui, c'est ça, c'est
c'est-à-dire
que, oui.
que cet investissement-là repose sur une adhésion à un projet et qu'on n'est pas à compter les minutes.
Absolument.
Pendant combien de temps vous avez tourné?
On a tourné ça sur 4 jours. On a fait une journée à Pézenas et 3 jours au lac du Salagou. Et il y a eu 5 ans d'écriture, mais pas à temps plein. J'ai commencé à l'écrire en 2017, on l'a tourné en 2022, mais entre-temps je l'avais mis dans les tiroirs, je l'ai ressorti, et puis en prenant du recul, j'ai pu un peu le réécrire et le mûrir. Et c'est surtout que à l'époque, c'était un projet que je m'étais juste amusé à l'écrire. Et puis en 2022, j'ai vu une occasion de le tourner. Toutes les planètes s'alignaient, les disponibilités, etc. Je me suis dit, allez, c'est le moment, on tourne.
Élie, merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
On a passé un moment d'échange sur ton parcours professionnel dans le monde du cinéma, puisque je pense que maintenant c'est celui dans lequel tu as envie de réaliser un certain nombre de choses.
Absolument.
Ton témoignage me paraît intéressant parce que dans la mesure où on a suivi ton histoire depuis le début, c'est-à-dire la naissance d'un centre d'intérêt jusqu'à maintenant la projection d'une réalisation, même si c'est un court-métrage de 10 minutes, d'une réalisation importante, c'est peut-être aussi comment dire, le témoignage d'un parcours. Donc merci pour ça.
Ben, écoute, si ça peut aider d'autres gens à essayer de faire aussi ce type de parcours, c'est avec plaisir de partager ces expériences.